Sous le titre « La loi de la pudeur », le dialogue de ce soir va réunir exceptionnellement trois personnes. Michel Foucault, Guy Hockenghem et Jean Danet. Inutile de présenter Michel Foucault. On sait par ailleurs que Guy Hockenghem est écrivain et fut le créateur du Phare. Jean Danet, quant à lui, est juriste et travaille à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Nantes. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Discours juridique et perversion sexuelle au XIXe et XXe siècle ». Michel Foucault, la loi de la pudeur.
Eh bien, si nous avons tous les trois accepté de participer à cette émission, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'une sorte d'évolution assez large, assez massive, et qui au premier regard semblait irréversible, certaines évolutions pouvaient faire espérer que le vieux régime légal imposé aux pratiques sexuelles de nos contemporains, ce régime allait enfin se détendre et se disloquer. Vieux régime jusqu'à un certain point, puisque après tout, le code pénal de 1810 ne disait pas grand-chose sur la sexualité, comme si la sexualité ne devait pas relever de la loi. Et c'est simplement dans le courant du 19e siècle, au 20e surtout, à l'époque de Pétain, au moment de l'amendement Mirguet en 1960, que la législation de la sexualité est devenue de plus en plus pesante. C'est devenu de plus en plus pesante, mais on pouvait espérer donc, depuis 10 ans, que l'évolution qu'on peut constater depuis 10 ans, dans ce qu'on appelle les mœurs, dans ce qu'on appelle l'opinion, allait permettre d'alléger ce régime. Et on a même réuni une commission de réforme du droit pénal qui a toujours pour tâche de rédiger à nouveau un certain nombre des articles fondamentaux du droit pénal. Et cette commission a effectivement envisagé, avec, je dois dire, beaucoup de sérieux, non seulement la possibilité, mais la nécessité de changer la plupart des articles qui régissent dans la législation actuelle, qui régissent le comportement sexuel et interdisent un certain nombre de choses. Cette commission, qui siège maintenant depuis plusieurs mois, a en traité de ces questions au cours du mois de mai et juin dernier. Et je crois que les propositions qu'elle comptait faire était ce qu'on peut appeler libéral. Or, il semble bien que depuis un certain nombre de semaines, de mois, un mouvement en sens inverse est en train de se dessiner. Mouvement qui est inquiétant, d'abord parce qu'il ne se produit pas simplement en France. Dans d'autres pays, on peut le constater. Regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, avec la campagne que Anita Bryan a menée contre les homosexuels, allant même jusqu'à quelque chose qui frise l'appel au meurtre, c'est un phénomène que l'on peut constater en France. Et en France, on le constate à travers un certain nombre de faits particuliers, ponctuels, dont on parlera tout à l'heure, Jean Danet et Guy Hockenghem en donnant certainement des exemples, mais qui semblent indiquer que, d'une part, dans la pratique policière, et d'autre part, dans la jurisprudence, on en revient actuellement à des positions fermes, des positions dures, des positions strictes. Et ce mouvement que l'on constate dans la législation, eh bien, il est malheureusement appuyé bien souvent par des campagnes de presse ou par un système d'information donné dans la presse qui incite à un retour vers une pratique du contrôle sexuel beaucoup plus stricte que celui vers lequel on semblait aller au cours de ces dernières années.
Guy Hockenghem.
Je vais d'abord prendre un exemple pour passer directement à des applications. Nous avons un ami qui s'appelle Gilbert Villereau, qui est éducateur à Caen et qui est détenu maintenant depuis 3 mois à la prison d'Alençon. Gilbert Villereau est inculpé pour des faits qui sont extrêmement minimes, extrêmement légers, à savoir avoir simulé une masturbation devant des enfants, simulé par le rapport de gendarmerie, donc on ne l'accuse pas du tout de s'être effectivement même masturbé lui-même, et d'autre part d'avoir commis un attouchement sur l'organe sexuel d'un des gamins qu'il a rencontré au cours d'une promenade à vélo dans la région où il se trouvait à ce moment-là, la région d'Alençon. Fait extrêmement léger qui, dans n'importe quelle autre circonstance, à Paris notamment, n'aurait même pas valu la détention préventive. Faits néanmoins qui ont légitimé non seulement la détention préventive, mais puisqu'il y avait eu un effleurement, dit le rapport de gendarmerie, de l'organe sexuel d'un gamin non en érection, fait donc qui amène aux assises le gamin ayant moins de 15 ans. Donc Villeroy est en prison depuis 3 mois pour cela. Nous avons publié les informations concernant le cas de Villeroy, concernant le fait qu'on semblait lui réserver un procès d'assises dans le journal Libération, sans aucune remarque sur le fond pour éviter de toute manière toute intrusion dans le domaine proprement judiciaire, en soulignant simplement la légèreté des faits et la lourdeur déjà de la préventive. C'est un petit fait, mais un fait intéressant. Le juge d'instruction, ayant pris connaissance de cet article, a commencé par interdire à Villeroy toute communication avec les personnes qui lui avaient écrit à la suite de cet article, des lecteurs de Libération, des sympathisants, non pas des complices du crime, mais de simples sympathisants qui avaient écrit en disant qu'eux aussi avaient eu des problèmes de ce type-là ou qu'ils comprenaient très bien le désir d'un adulte pour un enfant ou des choses de ce genre-là. Tout ça a été saisi, interdit. Et Villeroy a été interdit de visite de toute personne qui ne soit pas la famille pour la même raison. Pour cette raison-ci que la politisation ou la publicisation d'une telle affaire semblait à ce juge un argument suffisant pour organiser le secret autour de Villeroy. On peut dire qu'il s'agit d'une province, il s'agit peut-être d'un juge d'instruction excessif ou d'un juge d'instruction qui a des idées un peu particulières. Je ne crois pas. Je crois personnellement que ça correspond à un ensemble dont Michel Foucault a donné quelques lignes tout à l'heure. Cet ensemble, c'est celui-ci. Quand il y a maintenant 6 mois, nous avons lancé une pétition, tout un groupe de gens ont lancé une pétition qui demandait l'abrogation d'un certain nombre d'articles de loi, notamment ceux qui répriment les rapports entre majeurs et mineurs, ceux qui répriment également l'incitation de mineurs à la débauche, ou en tout cas la décriminalisation des rapports entre mineurs et majeurs en dessous de 15 ans, c'est-à-dire le fait de ne pas faire passer en assise quelqu'un qui aurait eu un rapport sensuel quelconque ou érotique quelconque avec un gamin ou une petite fille de moins de 15 ans. Quand donc nous avons fait cette pétition, que beaucoup de gens ont signée, des gens qui se recrutent dans tout l'éventail politique qui vont effectivement du Parti communiste à des gens qui ne sont pas du tout, qui en sont très loin, nous avions l'impression qu'un certain mouvement se dessinait. Et ce mouvement était confirmé par les documents que nous avions pu voir de la commission de réforme du code pénal. Ce que nous constatons aujourd'hui donc, c'est que non seulement ce mouvement était un petit peu une illusion libérale que nous nous faisions nous, et qu'en fait il ne correspondait pas à une transformation profonde dans la jurisprudence, dans la façon même d'instruire une affaire, mais qu'en plus au niveau de l'opinion proprement dite, c'est-à-dire des journaux, des radios, des télévisions, etc., c'était bien plutôt l'inverse qui semblait s'amorcer. En fait, si ce mouvement inverse dont on a parlé tout à l'heure, si ce mouvement de durcissement se produit, c'est avec de nouveaux arguments. Ces nouveaux arguments tournent essentiellement autour de l'enfance. C'est-à-dire, ils tournent essentiellement autour de l'exploitation de la sensibilité populaire, de la sensibilité de l'opinion, et de l'horreur spontanée de l'opinion pour tout ce qui a trait au sexe quand c'est lié à l'enfant. Ici, on va prendre des exemples parce que je crois qu'ils sont importants. Il s'agit d'un article, essentiellement d'un article publié dans le Nouvel Observateur, c'est un grand article intitulé « Les montreurs d'enfants », qui est consacré en apparence à la pornographie exercée, comme on dit, aux dépens des enfants, c'est-à-dire à la pornographie où l'on filme, où l'on photographie des enfants. Premièrement, l'article commence par un chapeau disant que la pornographie à l'égard de l'enfant, c'est le dernier cauchemar américain et sans doute le plus terrible d'un pays, sans doute fertile en scandale. Bon, je veux dire, que la pornographie enfantine soit le plus terrible des scandales actuels, la disproportion même entre l'objet évoqué et l'immensité des drames et des répressions que peuvent subir par exemple les Noirs aux États-Unis ou que le tiers-monde a pu subir à la part des États-Unis, le fait que ça devienne la pornographie enfantine ou la pornographie où apparaît l'enfance la question essentielle de notre temps, ou que ça devienne la question la plus douloureuse, c'est ce point-là qui précisément nous permet de déterminer qu'il ne s'agit pas de l'objet lui-même, qui est relativement simple, de la pornographie, mais qu'il s'agit bien plus largement de tout rapport sexuel avec l'enfance. C'est ce que montre effectivement le contenu de l'article. Bon, je ne sais pas, je vais pas en faire une analyse détaillée, mais je vais simplement lire les extraits de ce que contient l'article, qui est essentiellement une interview d'un inspecteur de police américain, ses scoops journalistiques étant faits d'une manière assez bizarre, un peu à la méthode du Parisien libéré, à peu près exclusivement d'interviews de la police et de quelques interviews, non pas d'enfants, mais de prostituées de 15 ans, qui ont toujours existé de toute manière, et qui, par ailleurs, ne semblent pas être particulièrement victimes de macros, mais qui sont effectivement des prostituées de 15 ans. Il y a toujours eu des amateurs de garçonnets qui se procuraient ce matériel sous le manteau. La différence, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les homosexuels n'ont plus besoin de se cacher. Ils ont des magazines, font des manifestations, proposent des lois au Congrès. Alors, la recrudescence de ces films, ça va naturellement avec la recrudescence de l'homosexualité, me dit l'inspecteur. Alors, là où on voit, si on peut dire, le bout de l'oreille de l'article, c'est quand, ne parlant pratiquement pas, ou très peu, ni de la prostitution sur laquelle elle n'a rien de nouveau à ajouter à ce qu'on savait déjà, ni même de la pornographie sur laquelle elle a visiblement peu de renseignements, elle en vient enfin au pire et au problème principal, à savoir, comme elle l'écrit en citant une fois de plus le policier en question, « Nous croyions que c'était les gens qui s'intéressent aux petits-enfants, de vieux homosexuels à perruques avec des bonbons pleins les poches. Moi aussi, dit la journaliste, il paraît que je confondais avec les pédophiles. Pour cela, petits garçons, petites filles, tout est bon du moment que ce sont des enfants. » Je veux dire, je commente même pas. Ce qu'elle appelle le faucon, c'est-à-dire le faucon, l'oiseau rapteur, comme ça, c'est-à-dire le pédophile tout simplement, c'est autre chose, ça peut être n'importe qui, le médecin de famille, le meilleur ami de papa, le cousin de passage, le livreur du supermarché, le voisin de palier, et lui, il ne s'attaque qu'à des gosses consentants. Alors voilà où on touche, à mon avis, le fond du problème. C'est que toute cette campagne sur la pornographie, sur la prostitution, sur tous ces phénomènes sociaux qui, de toute façon, sont sujets à discussion. Personne ici ne songe à se faire le paladin de la pornographie ou de la prostitution. Le problème n'est pas là. Mais ne servent en fait qu'à en arriver à cette question essentielle, à savoir, c'est encore pire quand ils sont consentants et c'est encore bien pire si ça n'est ni pornographique ni payé, etc. C'est-à-dire que tout le contexte criminalisant ne sert qu'à dégager le noyau, en quelque sorte, de l'accusation, c'est que c'est bien pire quand c'est consentant. C'est donc pas du tout l'ensemble criminalisant qui est réellement pris en question, qui est réellement le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est qu'il ne sert qu'à ça, à souligner l'interdit traditionnel et à le souligner d'une nouvelle manière, avec de nouveaux arguments, l'interdit traditionnel sur les rapports sexuels, consentants, sans violence, sans argent et sans aucune forme de prostitution qui peuvent exister entre des majeurs et des mineurs.
Jean Danet.
Oui, je crois qu'on peut en effet évoquer quelques affaires récentes pour compléter un peu le panorama de ce qui vient d'être dit pour l'instant sur la situation actuelle du droit face à la pudeur, disons. Une première affaire qui a été jugée il y a quelque temps en Loire-Atlantique, aux Assises, et qui mettait en cause un homme de 47 ans accusé d'attentat à la pudeur sur des mineurs de moins de 15 ans, d'attentat à la pudeur sur des mineurs de 15 à 18 ans et d'excitation de mineurs à la débauche. Bien. Cette fois, le panorama était complet. Tous les articles du code étaient convoqués pour juger le personnage en question. Et je crois que ce procès a été intéressant dans ce qu'il a permis de comprendre sur la façon dont on allait bientôt envisager le problème des rapports avec les enfants dans la justice. Bon. Une première chose vient d'être dite par Okangem, qui est le consentement maintenant fait figure pratiquement de circonstance aggravante dans les affaires de pédophilie. Il y a aussi un autre processus pour aggraver les procès de pédophilie. Le processus est simple, c'est d'invalider totalement ce que peuvent venir dire à la barre les témoins victimes ou témoins pseudo-victimes, puisque tout un chacun sait bien qu'ils sont consentants, ne serait-ce d'ailleurs que parce que la chambre d'accusation ne retient pas les violences et n'inculpe pas d'attentat à la pudeur avec violence ou de viol. Alors, ces témoins-victimes, ils viennent à la barre, et puis ils disent au président et au juré, eh bien, on était consentants. Les choses ont duré un an, on revenait tous les 8 jours, voir l'accusé, et puis, bon, Ils ne vont pas jusqu'à dire leur plaisir face au jury, parce que le cadre de la cour d'assises permet d'interdire certaines paroles, mais tout au moins, on ne peut pas nier qu'ils soient consentants. Dans cette affaire, deux experts étaient commis. Un premier, et ça c'est l'aspect le plus traditionnel, le plus vieillot du droit, un premier était commis, c'est un médecin légiste, et qui était chargé de pratiquer sur les enfants une anuscopie. Une anuscopie, c'est un examen médical assez traumatisant, semble-t-il, et qui était destiné à démontrer ou non qu'il y avait eu violence. L'examen s'est révélé négatif, et mieux que cela, le médecin légiste est venu dire qu'à son avis, les garçons en question n'avaient vraiment pas été traumatisés, et qu'on ferait mieux de considérer nettement qu'ils étaient consentants et que donc c'était une circonstance atténuante pour l'inculper. Et puis un autre expert était commis, et celui-là c'était le psychiatre de service, qui venait dire après une visite de 20 minutes à la prison, comme d'habitude, tout ce qu'il pensait et tout ce qu'on pouvait penser de l'inculper. Et le psychiatre est venu revendiquer finalement à la barre un autre examen. Car non seulement il ne se contente pas de venir dire la vérité sur l'accusé, mais maintenant il semblerait que certains psychiatres aimeraient bien aussi dire la vérité sur les victimes. Ça s'appelle la victimologie, et ils aimeraient bien faire un examen psychiatrique des victimes pour dire s'ils étaient consentants ou non. Et sur ce plan-là, je pense que c'est extrêmement grave, parce que la parole des psychiatres va venir cette fois nier complètement tout ce que pourront dire les victimes, et on sait déjà que certains psychiatres considèrent que les rapports entre les enfants et les adultes sont toujours traumatisants, et que s'ils n'en gardent pas le souvenir, c'est que c'est dans leur inconscient, mais de toute façon, ils sont marqués à jamais, ils deviendront caractériels ou d'autres choses de ce genre. Donc, ce qui se prépare, c'est une manipulation du consentement des soi-disant victimes. C'est une manipulation du consentement des enfants, c'est une manipulation de leurs paroles. Et puis il y a une autre utilisation assez récente, me semble-t-il, des textes répressifs, qu'il convient de noter parce que peut-être elle servira de tactique provisoire à la justice pour combler des manques. En effet, dans les institutions disciplinaires traditionnelles, la prison, l'école, l'asile, les infirmiers, les instituteurs, sur eux pesait un règlement très strict. La hiérarchie était toute proche, qui les surveillait en permanence, tout autant finalement qu'elle surveille les enfants ou les fous. Par contre, dans les nouvelles instances de contrôle social, le contrôle par la hiérarchie est beaucoup plus difficile, et on se demande si on ne va pas assister à une utilisation des textes de droit commun, excitation de mineurs à débauche, par exemple, contre des travailleurs sociaux, des éducateurs. Et je remarque au passage que Villereau est éducateur, que Galien était médecin, même si les faits ne s'étaient pas déroulés pendant qu'il exerçait sa profession. Enfin, tout de même, ce n'est pas un hasard. Quand en 1976, à Nantes, a eu lieu un procès d'un éducateur qui était accusé d'excitation de mineurs à débauche pour avoir fourni des contraceptifs aux garçons et filles dont il avait la charge. Donc, le droit commun servirait cette fois pour réprimer les éducateurs, les travailleurs sociaux qui ne feraient pas leur travail de contrôle social dans le sens où le désire leur hiérarchie respective. Alors ça, c'est une deuxième utilisation donc des textes répressifs. Et puis je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est le caractère assez récent de tous ces textes du code pénal. Il faut peut-être y revenir parce qu'on croit, que le code de 1810 connaissait déjà toute la panoplie des outrages publics à la pudeur, des attentats à la pudeur sans violence, etc., etc. En fait, le code de 1810 ne réprimait que l'outrage public à la pudeur et l'attentat à la pudeur avec violence qui était assimilé au viol. Et ça n'est que petit à petit que se sont mis en place des textes répressifs et qui ne visaient pas des catégories générales, mais qui visaient des effets bien particuliers. Et il y a eu comme ça, tout au long du 19e, un certain nombre de stratégies précises, ponctuelles, qui visaient à réprimer tel ou tel point. Et je crois que ça peut éclairer ce qu'on voit actuellement, parce qu'on s'aperçoit par exemple qu'au moment où la scolarisation est mise en place de façon définitive et systématique, eh bien, comme par hasard, c'est à ce moment-là que sont mis en place les textes concernant l'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs. Le seuil s'élève, 1832 c'est 11 ans, et puis 1863 c'est 13 ans. Et dans la jurisprudence, et au XIXe siècle, les juges sont très bavards sur la sexualité, ils racontent et ils voient à travers les textes des conceptions très précises du plaisir, allant même parfois jusqu'à renoncer à inculper parce qu'ils pensent que tel ou tel acte sexuel n'est pas visé par le texte. Bon, alors ça donne des quiproquos assez intéressants et assez drôles, sauf pour ceux qui les subissaient sans doute. Mais de 1830 à 1860, par exemple, on voit les arrêts s'acharner littéralement sur les instituteurs, à tel point que certaines décisions de justice disent explicitement l'article 334 du Code pénal sur l'excitation de mineurs à la débauche s'applique à certaines personnes, et entre parenthèses, l'instituteur par exemple, alors que l'affaire en question ne concernait pas un instituteur. C'est dire à quel point tous ces textes, finalement, sont à la recherche des lieux par où pourraient bien s'introduire les pervers qui vont corrompre la jeunesse. C'est ça l'obsession des juges. Ils n'ont pas réussi à définir les perversions. Ce sera la médecine et la psychiatrie qui le fera à leur place. Et au milieu du 19e, il leur vient une obsession. Et si les pervers étaient partout, et on va commencer à les traquer dans les institutions les plus dangereuses, les plus à risque, les populations à risque pratiquement, avant l'époque où l'expression a été inventée, eh bien on traque comme ça les instituteurs, etc. Alors je crois que c'est important pour voir comment aujourd'hui des tactiques tout à fait similaires peuvent être mises en place par la justice pour réprimer tel ou tel point. Mais ces textes, encore une fois, sont nouveaux, et les derniers en date, en particulier tous les textes qui concernent de façon spécifique l'homosexualité, ont été pris soit en 1942 sous Pétain, soit en 1960, 6 mois après l'amendement Mirguet. Mais la mise en place définitive donc de ces textes législatifs correspond aussi au renoncement du droit à parler de la sexualité. Pendant tout le XIXe siècle, il y avait peu de textes qui visaient la sexualité. Le bavardage des juges servait à combler cette lacune, à mettre en place des petites astuces juridiques. Et en même temps qu'on mettait en place ces astuces juridiques, on ne se privait pas de faire passer tout un discours moralisant sur la sexualité. Et puis, battu par la médecine, battu par la psychiatrie, qui tiennent un discours autrement plus cohérent sur le sexe, eh bien, le droit renonce à dire la vérité de la sexualité, mais par contre, il ne renonce pas à réprimer. Et il applique silencieusement les textes de loi qui sont désormais à sa disposition. Et actuellement, si on a pu croire pendant un temps que les textes de loi allaient reculer, c'est peut-être aussi parce que finalement, on ne pensait pas nécessairement que la période était libérale, mais on pensait aussi que des contrôles plus subtils allaient se mettre en place sur la sexualité. Et que peut-être l'apparente liberté qui camouflait ces contrôles sociaux plus souples, plus diffus, allait entraîner une mise hors champ du juridique, du pénal. Or, ça n'est pas nécessairement le cas, et on peut bien penser que des lois répressives traditionnelles fonctionneront avec des contrôles beaucoup plus subtils, une force de la sexologie telle qu'on n'en a pas connue et qui investirait toutes les institutions, y compris scolaires.
Michel Foucault.
Il est vrai qu'on est à une mutation. Il n'est pas vrai, sans doute, que cette mutation, disons, serait favorable à un allègement réel de la législation sur la sexualité. Bon, ce sur quoi Jean Danet a insisté, je crois, très important. Pendant tout le XIXe siècle, s'est accumulé petit à petit, non sans beaucoup de difficultés, une législation très pesante. faute. Or, cette législation avait ce point tout de même très caractéristique qu'elle n'a jamais été capable de dire exactement ce qu'elle punissait. On punissait des attentats, l'attentat n'a jamais été défini. Elle punissait des outrages, on n'a jamais su ce que c'était qu'un outrage. La loi était destinée à défendre la pudeur, on n'a jamais su ce que c'était que la pudeur. Pratiquement, chaque fois qu'il fallait justifier une intervention législative dans le domaine de la sexualité, on invoquait le droit de la pudeur. Et on peut dire que toute la législation sur la sexualité telle qu'elle a été mise en place depuis le XIXe siècle en France est une sorte de, est un ensemble de lois sur la pudeur. C'était les lois de la pudeur. Bon, il est certain que cet appareil législatif qui visait un objet non défini n'était jamais utilisé que dans des cas qui étaient considérés comme tactiquement utiles. Il y a eu en effet toute la campagne contre les instituteurs, il y a eu à un moment donné une utilisation contre le clergé, il y a eu une utilisation de cela pour régler les phénomènes de prostitution d'enfants qui ont été si importants dans tout le XIXe siècle, entre les années 1830 et 1890, etc. Bon. Maintenant, on se rend bien compte, je crois, que cet instrument, qui a pour lui l'avantage de la souplesse, puisque son objet n'est pas défini, ne peut pourtant pas subsister ainsi, dès lors que ces notions, par exemple, de pudeur, d'outrage, d'attentat, quand on les emploie comme ça, dans le système de valeurs, de culture, de discours, dans l'explosion pornographique et les profits qu'ils induisent, dans toute cette atmosphère-là, il n'est pas plus possible d'employer ces mots et de faire fonctionner la loi de cette manière-là. Mais ce qui se dessine, et c'est pourquoi je crois qu'il était important, en effet, de parler du problème des enfants. Ce qui se dessine, c'est un nouveau système pénal, un nouveau système législatif, qui se donnera pour fonction, non pas tellement de punir ce qui serait infraction à ces lois générales de la pudeur, que de protéger des populations ou des parties de population considérées comme particulièrement fragiles. C'est-à-dire que le législateur ne justifiera pas les mesures qu'il propose en disant « il faut défendre la pudeur universelle de l'humanité », mais il dira « il y a des gens pour qui la sexualité des autres peut devenir un danger permanent. Ainsi les enfants qui risquent de se trouver aux prises avec une sexualité adulte qui leur sera étrangères et qui risquent fort de leur être nuisibles. De là, une législation qui risque fort de faire appel à cette notion de la population, de population fragile, de population à haut risque, comme on dit, et qui fera appel à ce moment-là, à quoi ? À tout un savoir psychiatrique ou psychologique, imbibé d'une psychanalyse de bonne ou de mauvaise qualité, peu importe au fond, et qui donnera au psychiatre le droit d'intervenir deux fois. Premièrement, en termes généraux, pour dire « oui, bien sûr, la sexualité de l'enfant, elle existe. Ne revenons plus à ces vieilles chimères qui nous faisaient croire que l'enfant était pur et ne savait pas ce que c'est que la sexualité. Mais nous autres psychologues, ou psychanalystes ou psychiatres, ou pédagogues, nous savons parfaitement que la sexualité de l'enfant est une sexualité spécifique, qui a ses formes propres, qui a ses temps de maturation, qui a ses moments forts, qui a ses pulsions spécifiques, qui a ses latences également. Cette sexualité de l'enfant est une terre qui a sa géographie propre et sur laquelle le pied de l'adulte, et quand je dis pied, enfin, bon, où l'adulte ne doit pas pénétrer. Terre vierge, terre sexuelle certainement, mais terre qui doit garder sa virginité. Il interviendra donc comme caution, comme garant de cette spécificité de la sexualité enfantine qu'il faut protéger. Et d'autre part, dans chaque cas particulier, il dira « voilà qu'un adulte est venu mêler sa sexualité à la sexualité de l'enfant. Peut-être l'enfant, avec sa sexualité propre, a bien pu désirer cet adulte. Peut-être bien il a consenti. Peut-être même a-t-il fait les premiers pas. On admet même que c'est lui qui a séduit l'adulte. Mais nous autres, avec notre savoir psychologique, nous savons parfaitement que même l'enfant séducteur risque, et même dans tous les cas, va subir un certain dommage et un traumatisme du fait qu'il aura eu affaire à un adulte. Et par conséquent, il faut protéger l'enfant de ses propres désirs dès lors que ses désirs l'orienteraient vers l'adulte. Et c'est le psychiatre qui, lorsque une affaire comme celle qu'on a évoquée se présentera, c'est le psychiatre qui pourra dire, eh bien voilà, je peux prédire qu'un traumatisme de telle ou telle importance va se produire à la suite de tel ou tel type de rapport. Et c'est par conséquent, à l'intérieur du nouveau cadre législatif destiné essentiellement à protéger certaines fraction fragile de la population, à l'intérieur de ce cadre juridique, va se précipiter un pouvoir médical qui sera à la fois arbitraire et fondé sur une conception de la sexualité et surtout des rapports de la sexualité enfantine et adulte qui est entièrement contestable.
Guillaume.
Oui, moi je crois en plus que ça s'accompagne pas. Enfin, quand on dessine les grands traits ici, bon, il y a en fait tout un mélange, je crois. On peut le dire, il y a tout un mélange de notions qui permettent de fabriquer cette notion de crime ou d'attentat à la pudeur, etc. Un mélange très complexe sur lequel on n'a pas le temps ici de disserter longuement, mais qui comprend à la fois peut-être des interdits religieux sur la sodomie, à la fois un mélange inexpliqué, à la fois des données complètement nouvelles comme celles auxquelles Michel Foucault a fait allusion maintenant sur ce qu'on croit savoir de la totale étrangeté de l'univers enfantin et de l'univers adulte, qui mélange toutes sortes de choses. Mais ce qu'il y a, c'est que l'évolution globale, indiscutablement maintenant, c'est non seulement de fabriquer définitivement, disons, un type de crime qui est de tout simplement tout rapport érotique ou sensuel entre un enfant et un adulte, mais d'autre part à fabriquer forcément et réciproquement, puisque ça devient un crime et que ça peut s'isoler sous la forme de crime, une certaine catégorie de la population qui, puisqu'elle s'adonne à ces plaisirs-là, et puisque ces plaisirs-là sont des crimes particuliers, ne sont pas des choses qui vont de soi ou qui pourraient se passer dans l'indifférence ou des petites choses insignifiantes, dès lors qu'il existe une catégorie particulière de pervers au sens propre, de monstres qui ont comme but dans la vie de pratiquer le sexe avec les enfants. Ils deviennent dès lors des pervers et des monstres isolables, puisqu'effectivement le crime en tant que tel est reconnu, est constitué et désormais renforcé par tout l'arsenal psychanalytique et sociologique. Ce que je dis, c'est qu'on est en train de nous fabriquer, de toutes pièces un type de criminel, et de criminel qui est tellement horrible à concevoir que son crime, à la limite, se passe de toute explication. Parce que dans le cas de l'attentat sans violence, c'est celui où on n'a rien pu vraiment trouver, rien, de rien, de rien, de zéro. Dans ce cas-là, le criminel est simplement criminel parce qu'il est criminel. C'est-à-dire parce qu'il a ces goûts-là, ce qu'on pourrait appeler traditionnellement un crime d'opinion ou un crime de... Il est constitué comme tel. C'est très frappant de noter, je l'ai vu dans un bulletin que m'a envoyé le comité Paradjanov, que par exemple récemment, Paradjanov qui, comme vous savez, a été condamné à 5 ans de camp en Union soviétique pour homosexualité, puis ensuite d'autres motifs sont arrivés les uns après les autres. Quand une délégation est allée à Paris voir le représentant de l'ambassade du RSS pour porter une protestation, le représentant de l'ambassade du RSS a dit « mais vous ne savez pas en fait pourquoi il est condamné, il est condamné pour viol d'enfant ». Bon, ce représentant lisait la presse, c'est-à-dire savait bien que le terme fait plus peur que n'importe quel autre. Ce que je dis, c'est que la constitution de ce nouveau type de criminel, la constitution de cet individu particulièrement pervers de faire une chose qui s'était toujours faite jusqu'à présent sans que personne ait cru bon d'y mettre son nez, c'est une démarche extrêmement grave du point de vue politique qui, même si elle n'a pas atteint les dimensions qu'ont pu atteindre les campagnes contre les terroristes ou tel type de campagne, même si elle n'a pas atteint cette dimension-là, quoi que ce soit plusieurs centaines d'affaires par an qui passent devant les tribunaux, est néanmoins extrêmement grave et signifie qu'une partie de la population est désormais considérée a priori comme criminelle, peut-être pourchassée dans des opérations du type aider la police, et ça a été le cas pour Villeroy, Les rapports de gendarmerie notent avec intérêt que la population a participé à la recherche, que les voitures ont recherché le satyre, etc., etc. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le mouvement se nourrit de lui-même. Le crime s'évanouit, c'est-à-dire personne ne se préoccupe plus de savoir s'il y a eu en fait un crime ou non, si quelqu'un a été lésé ou non. Personne ne se préoccupe même plus de savoir d'aucune manière s'il y a eu une victime, parce que s'il y a un crime, il y a toujours une victime. Le crime se nourrit totalement de lui-même par la chasse à l'homme, par l'identification et l'isolement de la catégorie d'individus considérés comme les pervers en question. Et il aboutit à cette forme d'appel au lynchage, une fois de plus, que présentent aujourd'hui certains articles de presse. Bon. Je vais dire encore une petite chose, et s'il y a des avocats qui écoutent cette émission, j'espère qu'ils ne le prendront pas mal. Il est certain que les avocats qui défendent ces affaires ont énormément de problèmes. Mais c'est précisément ces problèmes sur lesquels je voudrais faire une remarque. Un peu là aussi, en petit, peut-être en moins tragique, mais néanmoins c'est un indice, un peu à la façon dont des affaires comme celle de Croissant ou les avocats des terroristes ont été traités, c'est-à-dire dans lesquelles les avocats étaient considérés immédiatement comme de dangereux complices, en fait, des terroristes. Tout ce qui touchait de près ou de loin à la chose était complice. Un peu de la même façon, le problème de la défense de quelqu'un qui est inculpé pour attentat aux mœurs avec un mineur, en province notamment, mais même à Paris, est un problème extrêmement grave, parce que beaucoup d'avocats ne peuvent pas, tout simplement, prendre cette défense, hésitent à le faire, préfèrent être nommés d'office, en fait, ou commis d'office, ont énormément de problèmes, car quiconque, d'une certaine façon, défend un pédophile peut être soupçonné d'on ne sait quelle obscure sympathie pour cette cause-là, obscure sympathie dont les juges, entre eux, pensent toujours, bon, vous voyez ce que je veux dire, que s'il les défend, c'est qu'il n'est pas tellement contre lui-même, au fond. Et ça me paraît une chose extrêmement grave et du même ordre que cet ensemble qui se constitue autour de ce nouveau criminel qui est l'adulte pratiquant des rapports érotiques avec l'enfance.
Jean Danet.
Oui, moi, je voudrais ajouter des choses qui confirment un petit peu ce qui vient d'être dit et qui montrent à quel point les processus qu'on vient de décrire là sont déjà en place et dans une simple affaire fonctionnent de manière parfaite. Bon, dans l'affaire que j'ai évoquée tout à l'heure, il faut noter d'abord que le criminel était bien, comme tu le dis, constitué en tant que tel, immédiatement, sans que personne n'ait porté plainte. Il y avait 5 garçons en cause, personne, aucun père, aucune mère de famille concernée, n'avait porté plainte. C'était donc le procureur qui poursuivait tout seul. Une deuxième chose, et qui est aussi importante, c'est que dans une affaire comme celle-ci, les enfants avaient fait l'objet, pendant l'instruction, de mesures d'assistance éducative et de placement dans des foyers, etc. C'est-à-dire que quand un procès comme ça se déroule, avant que le procès soit terminé, le juge des enfants et la cohorte d'assistantes sociales, psychologues, etc., qui l'entourent, prennent déjà les mesures répressives, ou les mesures correctives plutôt, contre les enfants qui ont été concernés par de tels rapports. Alors imaginez d'ailleurs l'effet et le chantage qu'on peut mettre en place vis-à-vis des enfants lorsqu'ils viennent témoigner à la barre. Bon, ça c'est évident, ça tombe sous le sens. Et puis il y a autre chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais revenir, et qui concerne l'évolution là des rapports entre la justice et, disons, les instances médicales, psychologiques ou psychiatriques. Je m'excuse de faire référence encore une fois à l'histoire, mais je crois que en cette matière, elle bégaye un petit peu et qu'on peut se référer utilement à ce qui s'est passé au 19e ou au début du 20e. On a vu, lorsque une lettre ouverte à la commission de réforme du code pénal a été publié et que des signatures ont été mises au bas de cette lettre, on a vu un certain nombre de psychologues, de sexologues, de psychiatres venir signer cette lettre. Ils demandaient donc une décriminalisation de l'attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans, un régime différent pour les attentats à la pudeur sur mineurs de 15 à 18 ans, une suppression des outrages publics, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que des psychiatres, des psychologues venaient réclamer un aggiornamento de la loi sur ce point qu'ils s'opposaient, ou qu'ils étaient plutôt aux côtés de ceux qui subissent ces répressions. Je veux dire par là que ça n'est pas parce qu'on est on lutte contre un pouvoir, en l'occurrence le pouvoir légal, qu'on est aux côtés de ceux qui le subissent. Et un exemple historique pour le prouver, c'est celui de l'Allemagne, où, dès le XIXe siècle, dès 1870, tout un mouvement a protesté contre une loi qui, elle, visait tous les homosexuels. Le paragraphe 175 du Code pénal allemand visait tous les homosexuels, tous les actes homosexuels. Ce n'était même pas un délit d'habitude, il n'y avait pas besoin d'être un homosexuel reconnu, un seul acte homosexuel suffisait, quel qu'il soit. Alors, tout un mouvement s'est mis en place, et qui était composé d'homosexuels, mais aussi de médecins, de psychiatres, qui venaient réclamer l'abrogation de ce texte de loi. Or, quand on lit la littérature que publiaient ces médecins ou ces psychiatres, on est absolument convaincu de ce qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'est l'abrogation de ce texte de loi pour s'emparer des pervers et pour pouvoir les traiter avec tout le savoir qu'ils prétendaient avoir acquis depuis 1860 environ, disons Morel, le traité des dégénérescences et tout cela, c'est la mise en place de toute la nosographie sur les perversions. Et ces psychiatres réclamaient en fait qu'on leur livre les pervers, que le droit renonce à connaître de la pudeur, lui qui en parle si mal, de façon si peu scientifique, et qu'enfin il puisse traiter au cas par cas, peut-être de façon moins répressive, peut-être de façon moins systématique, de façon moins aveugle que la loi, mais qu'il puisse dire au cas par cas qui est coupable ou plutôt qui est malade et décider, en toute tranquillité d'ailleurs, des mesures à prendre. Alors, je ne dis pas que les choses se reproduisent de la même façon, mais je dis qu'il est intéressant de voir comment deux instances peuvent être en concurrence pour s'emparer de ces populations de pervers qui sont définies par elles deux d'ailleurs de façon différente, et qu'il est intéressant de voir comment dans l'histoire l'un était concurrent de l'autre, non pas en s'indignant sur le principe même de la répression, mais parce qu'ils imaginaient déjà d'autres façons de traiter le problème.
Bien, Michel Foucault.
Je crois que Guillaume Quinguem a bien montré ce qui était en train de naître actuellement, quelque sorte en vis-à-vis de ces couches de population qu'il faut protéger. D'un côté, il y a une enfance qui, par sa nature même, est en danger, et qu'on doit protéger contre tout danger possible, avant même par conséquent tout acte ou toute attaque éventuelle, et puis en face, eh bien, on va avoir des individus dangereux. Et les individus dangereux, eh bien, ça va être évidemment l'adulte mâle en général ou l'adulte en général, de sorte que la sexualité, dans le nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place, la sexualité va prendre une toute autre allure que celle qu'elle avait autrefois. Autrefois, les lois interdisaient un certain nombre d'actes, actes d'ailleurs d'autant plus nombreux qu'on n'arrivait pas très bien à savoir quels ils étaient. Mais enfin, c'était bien à des actes que la loi s'en prenait. On condamnait des formes de conduite. Maintenant, ce qu'on est en train de définir, et ce qui par conséquent va se trouver menacé par l'intervention et de la loi, et du juge, et du médecin, eh bien, ça va être des individus qui seront tout simplement dangereux. On va avoir une société de danger, avec d'un côté ceux qui sont mis en danger, et d'un autre côté ceux qui sont porteurs de danger. Et la sexualité ne sera plus une conduite permise, sauf dans tel et tel cas, mais la sexualité, ça va être une espèce de danger, qui rôde comme ça, comme une sorte de fantôme omniprésent, et qui revient sans cesse, un fantôme qui va se jouer entre hommes et femmes, entre enfants et adultes, éventuellement entre adultes, entre eux, etc. La sexualité, ça va être cette ombre menaçante dans toutes les relations sociales, dans tous les rapports d'âge, dans tous les rapports entre les individus, et c'est là, sur cette ombre, sur ce fantôme, sur ce danger, que le pouvoir essaiera d'avoir prise par une législation apparemment généreuse ou en tout cas générale, et grâce à une série d'interventions ponctuelles qui seront celles, vraisemblablement, des institutions judiciaires appuyées sur les institutions médicales. et on aura là tout un nouveau régime de contrôle de la sexualité, mais dans la seconde moitié du XXe siècle, la sexualité soit décriminalisée, mais pour apparaître sous la forme d'un danger, et d'un danger universel, c'est là quelque chose qui est tout de même considérable, je dirais que c'est là le danger.
La loi de la pudeur. Michel Foucault, Guy Hockenghem et Jean Danet poursuivent leur dialogue avec le public du studio 105. Monsieur.
Je voudrais évoquer un ouvrage qui était paru il y a déjà une dizaine d'années, mais qui me paraît dans le contexte actuel assez important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'une part le type de classification des pervers tels, enfin plus exactement, il s'agit d'un ouvrage sur la personnalité des exhibitionnistes, qui n'a donc pas grand-chose à voir effectivement avec d'autres formes de perversion, mais d'une part il y a cette classification qui aboutit à exclure un certain type d'exhibitionniste de ce que j'appellerais le système de rééducation psychanalytique, et d'autre part, qui consiste en fait à revenir, mais sous des formes assez différentes en apparence, à la notion de criminel né. Il s'agit au fond de suppression de quelque chose qui est là avant la naissance, qui serait au fond dans l'embryon. Et si je parle d'embryon, c'est parce qu'à l'heure actuelle, on assiste à un retour en force de certaines méthodes, sous des formes peut-être nouvelles, mais à des méthodes telles que la psychochirurgie, où par exemple, on opère des homosexuels du cerveau, on opère des pédophiles du cerveau, on opère des violeurs du cerveau, et on opère toute une catégorie de gens. Et d'un autre côté, se pratiquent des manipulations génétiques, dont j'ai eu la preuve encore là récemment, en Allemagne de l'Est notamment. Bon, je ne cite pas le document, et ça serait vraiment trop long. Mais je veux dire que tout ça me paraît en fait très très inquiétant. Parce que à travers cela, effectivement, ce sont des gens à la personnalité desquels on s'attaque, il est bien évident. Mais d'un autre côté, je crois que ça, c'est quand même important. Et dire aussi une autre petite chose, et je m'arrête là-dessus, oui. C'est que l'expert, dans un texte que je cite là, qui est la contribution à l'étude de la personnalité exhibitionniste, l'expert dit textuellement ceci: le juge doit se servir de ces sanctions, non pas du tout toujours dans le cas coercitif, non pas, il ne s'agit pas d'une coercition, mais il s'agit d'un élément dans un processus de rééducation thérapeutique, sauf dans le cas extrême où le sujet est considéré comme irrééducable. Le fou moral, le criminel né de Lombroso.
Mais est-ce que vous avez quelque chose à répondre sur ces considérations? Non, il me semble que ça va dans le sens de tout ce que vous avez dit.
Parce que je ne suis qu'un historien en plus, c'est qu'en effet, cette idée que la législation, l'appareil judiciaire, le système pénal, la médecine elle-même doivent s'en prendre essentiellement à des individus dangereux plutôt qu'à des actes, ça c'est une idée en effet qui date à peu près de Lombroso. Et donc il n'est pas du tout étonnant qu'on retrouve la thématique de Lombroso actuellement. La société a à se défendre contre les individus dangereux. Il y a des individus dangereux par nature, par hérédité, par code génétique, etc.
Bien. Une autre question, monsieur.
Je voulais simplement demander à Guy Hockenghem, qui nous a fait brosser un tableau, disons, de la situation et de quelques exemples actuels en matière de répression de ce type d'actes, comment, à son avis, on peut envisager un certain nombre d'alliances pour lutter sur ce plan. En effet, il apparaît qu'à l'heure actuelle, les alliés naturels de ce type de mouvement, qui sont, disons, les groupements progressistes, ont quelques réticences à se mêler de ces affaires. Et en particulier, je trouve qu'il est quand même assez dangereux que des mouvements comme le mouvement des femmes focalisent leur militantisme sur des problèmes tels que le viol et, en fait, réussissent à, disons, accroître la pénalisation de ces affaires-là, alors qu'il y a quand même dans ces mouvements des réticences devant ces problèmes. Alors,
non, on a fait très attention dans le texte de la pétition, la lettre ouverte au Code pénal, qui est une fois de plus le centre de notre action, et tout ce que nous faisons pour l'instant a pour sens de faire progresser ce texte, je tiens bien à le rappeler. Nous avons bien pris soin de parler exclusivement de l'attentat à la pudeur, sans violence, et de l'incitation de mineurs à la débauche, etc. Nous avons pris extrêmement soin de ne pas, d'aucune manière, aborder le problème qui est totalement différent du viol et de la violence. Et c'est pourquoi, si l'on veut, l'espèce d'amalgame qui se fait actuellement entre crimes pédophiliques, pseudo-crimes pédophiliques d'ailleurs, parce qu'en fait on n'en voit pas tellement, on n'en voit pas tellement de sources, et pédophilie proprement dite, tout ça, cette espèce d'amalgame-là, nous tenons énormément à le dissocier. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est qu'on a vu cette émission sur le viol à la télévision, qu'on a tous été choqués par les réactions qu'ont suscité en France cette émission sur le viol, allant jusqu'à des coups de téléphone réclamant le rétablissement de la peine de mort pour les violeurs, exigeant la castration chimique des violeurs, ainsi de suite. Bon, ce qui n'est pas, une fois de plus, là il y a deux problèmes, il y a le problème du viol proprement dit, sur lequel les mouvements féministes et les femmes en général se sont parfaitement bien exprimés. Et il y a l'autre problème, des réactions au niveau de l'opinion. C'est un petit peu le même problème que l'article du Nouvel Observateur, qui a priori ne voulait pas viser les pédophiles, mais voulait viser la pornographie ou je ne sais quoi, qui en fait déclenche des effets secondaires de chasse à l'homme ou de mobilisation, de lynchage ou de mobilisation morale. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a un vrai problème dont je pense qu'il faut vraiment discuter avec les mouvements féministes. Mais je veux dire, c'est pas un problème d'alliance ni quoi que ce soit, mais c'est un problème très précis des effets de certains appels à la criminalisation au même moment où d'autres tentatives sont faites pour décriminaliser certains délits.
Jean Danet.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose en réponse à la même question. C'est que quand nous disons, enfin il me semble que quand nous disons que le problème du consentement est tout à fait central maintenant dans les problèmes de pédophilie, nous ne disons pas que le consentement, il est toujours là, bien entendu. Mais je crois que ce qui est important, et c'est là où on peut d'ailleurs dissocier l'attitude de la justice dans le cas du viol et dans le cas de la pédophilie, c'est que dans le cas du viol, les juges considèrent qu'il y a une présomption de consentement de la part de la femme et qu'il y a à démontrer le contraire. Bon. Alors qu'en matière de pédophilie, c'est l'inverse. On considère qu'il y a une présomption de non-consentement, une présomption de violence qu'il y a à renverser, même dans le cas où on n'a pas pu inculper d'attentat à la pudeur sans violence, c'est-à-dire dans le cas où on s'est rabattu sur le texte de l'attentat à la pudeur sans violence. C'est-à-dire du plaisir consenti, parce que cet attentat à la pudeur sans violence, il faut bien dire que c'est la traduction répressive et juridique du plaisir consenti. Alors, c'est cela qu'il faut bien voir, c'est comment on manipule le système des preuves de façon inverse dans le cas du viol de femme et dans le cas de l'attentat à la pudeur, soi-disant attentat à la pudeur pédophile.
Bien, merci. Je crois que c'est très important ce que vous venez de souligner, monsieur.
Sur cette question, justement, du consentement, je crois que tout à l'heure, Michel Foucault, très justement, soulignait que, peu à peu, le législateur et, enfin, l'opinion d'une façon générale, veulent protéger ceux qui sont faibles ou sont réputés faibles. Et il est certain que, dès lors que l'on parle de consentement de la part de jeunes, de mineurs, il se pose automatiquement Une objection est présentée par, nous dirons, les juges, l'opinion, par tous ceux qui ont à s'occuper de tels problèmes. Ils disent, mais vous dites qu'ils étaient consentants, il y a eu au moins une sorte de domination psychologique, il y a eu une influence, il y a eu peut-être un abus d'influence. Et c'est la question que je souhaite poser pratiquement aux trois participants au débat. Pouvez-vous, sans bien sûr anticiper sur les décisions que prendra la commission de révision du code pénal ou que par la suite le gouvernement ou le législateur prendra. Pouvez-vous dire à quel âge, selon vous, il apparaît que un ou une mineure, bien entendu, puisse donner son consentement?
Michel Foucault.
Oui, c'est difficile de fixer des barrières. Une chose est le consentement. Une autre chose est la possibilité pour un enfant d'être cru lorsque, parlant de ses rapports sexuels, ou de ses rapports, ou de son affection, ou de sa tendresse, ou de ses contacts, car après tout le mot de sexualité, l'adjectif sexuel est souvent gênant là-dedans, car il ne correspond pas à la réalité. Autre chose donc est la capacité que l'on reconnaît à l'enfant d'expliquer ce qu'il en est de ses sentiments, ce qu'il en a été de son aventure et la crédibilité qu'on lui accorde. Or, c'est ça qu'il y a, je crois, d'assez important dans cette histoire-là, c'est que aux enfants, on suppose que la sexualité ne peut jamais, que leur sexualité ne peut jamais les porter vers un adulte. Et d'un. Deuxièmement, on suppose qu'ils ne sont pas capables de dire sur eux-mêmes, d'être suffisamment lucides sur eux-mêmes et d'avoir des capacités d'expression suffisamment précises pour expliquer ce qu'il en est. Donc, on ne les croit pas. On les croit non susceptibles de sexualité et on ne les croit pas susceptibles d'en parler. Or là, je crois que, je ne dis pas que ça résout le problème, mais après tout, écouter un enfant, l'entendre parler, l'entendre expliquer quels ont été effectivement ses rapports avec quelqu'un, adulte ou pas, etc., doit pouvoir faire comprendre, pourvu qu'on l'écoute avec suffisamment de sympathie et surtout en lui faisant suffisamment crédit, doit permettre d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis. Et aller supposer que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas expliquer ce qu'il en est, que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas être consentant, il y a là deux abus qui sont très, je crois, intolérables, alors, si inacceptables. Vous... Mais enfin, bon, la question était posée à trois personnes. Oui.
Mais je veux dire, si vous étiez le législateur, pratiquement vous ne fixeriez aucune limite et vous laisseriez au juge le soin d'apprécier, en fait, s'il y a eu, à ce qu'on appelle en droit, un vice du consentement, s'il y a eu manœuvre dolosive, plus ou moins. Est-ce ça votre pensée, Foucault ?
Oui, je crois que de toute façon, une barrière d'âge fixée par la loi n'a pas beaucoup de sens. Un juge d'instruction du syndicat de la magistrature, et qui était un type, disons, libéral, m'a dit, un jour où on parlait de cette question-là, après tout, il y a des filles de 18 ans qui sont pratiquement obligées de faire l'amour avec leur père ou leur beau-père. Elles ont beau avoir 18 ans, c'est un système de contraintes qui est intolérable, et qu'elles éprouvent d'ailleurs comme intolérable, à condition du moins qu'on veuille bien les écouter et les mettre dans des conditions telles où elles peuvent le dire.
Bien, est-ce que Guillaume voudrait répondre peut-être à la même question ?
Enfin, c'est que ce qui me paraît certain, c'est que cette notion de consentement, c'est pour ça que je préfère les termes qu'a employé Michel Foucault, écouter ce que dit l'enfant et lui accorder un certain crédit. Parce que cette notion de consentement est de toute façon piégée. Il est tout à fait certain que la forme juridique du consentement en matière sexuelle est un non-sens. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui a signé un contrat avant de faire l'amour, de toute manière.
C'est une notion contractuelle.
C'est une notion contractuelle.
Donc ça ne peut pas marcher dans une...
Qui n'a vraiment pas de sens. Quand nous disons que les enfants sont consentants dans ce cas-là, nous voulons simplement dire ceci, qu'en tout cas, il n'y a pas eu de violence ou de manœuvres organisées pour leur arracher les rapports affectifs ou érotiques. Bon. Ceci est un point important. Il est d'autant plus important pour les enfants qu'effectivement, obtenir devant un juge l'organisation d'une cérémonie où les enfants viendraient dire « nous avons été effectivement consentants » est extrêmement dangereux, de toute manière. Est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que l'affirmation publique du consentement à de tels actes est extrêmement difficile, on l'a constaté. Une fois de plus, ce qui se passe en fait, c'est qu'on sait, c'est que tout le monde sait, les juges, les médecins, l'accusé, etc., que les enfants étaient consentants, mais que personne n'en parle, parce que de toute façon... Il n'y a pas moyen d'en faire état. Bon. Ce n'est pas simplement une interdiction de la loi, c'est également une impossibilité, à mon avis, réelle de traduire, en particulier un rapport très complexe qu'il peut y avoir entre un enfant et un adulte, qui est progressif, qui est long, qui passe par toutes sortes de réseaux qui ne sont pas du tout exclusivement sexuels, qui passe par toutes sortes de types de contacts affectifs, etc. Le traduire en termes de consentement juridique est une absurdité. Maintenant, une fois de plus, je pense que la seule chose qu'on puisse dire, c'est cela, c'est de toute façon, si on écoute ce que dit l'enfant et s'il dit « je voulais bien », ça n'a pas la valeur juridique d'un consentement, mais s'il dit « je l'aime bien », c'est quelqu'un que je connais, oui, moi je suis d'accord, etc. Enfin, si ça se traduit par ça, bon, c'est ça qui est important. Mais je me méfie beaucoup de cette idée de consentement formel du mineur, parce que je sais que c'est une chose qu'on n'obtiendra jamais et qui est vide de sens, en fait.
Jean Danet.
Moi, je voudrais répondre en renversant un peu le problème et en posant une question à certains psychiatres. En effet, les mêmes qui reconnaissent aux enfants libéraux qu'ils sont, une sexualité, et reconnaissent qu'entre eux, ils puissent avoir une sexualité, les mêmes viennent nous dire qu'entre un enfant et un adulte, les rapports sont toujours traumatisants. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un consentement, dans le sens où ils prennent le terme. Alors, comment peuvent-ils affirmer que, au nom simplement d'une différence d'âge, il y aurait toujours un effet de pouvoir tel de l'adulte sur l'enfant qu'il y aurait vice du consentement, puisqu'on est dans les termes juridiques, restons-y. Comment peuvent-ils dire que ces mêmes enfants qui, entre eux, pourraient consentir librement des rapports avec un adulte seraient toujours non consentants? Sinon parce qu'ils ont derrière la tête l'idée que l'adulte imposerait forcément aux enfants une sexualité qui ne serait pas en rapport avec leurs désirs. C'est-à-dire que l'adulte serait incapable de vivre avec un enfant autre chose qu'une sexualité normalisée, la sexualité que les psychiatres s'accordent à reconnaître comme normale pour les adultes entre eux. Au fond, c'est un manque d'imagination de la part des psychiatres, rien de plus.
Bien, je vous remercie. Je crois qu'il y a une question encore.
Ce n'est pas à proprement parler une question, mais comme on parlait tout à l'heure des femmes et des positions qu'elles ont prises à propos du viol, et qu'il y a assez rarement une voix de femme qui s'élève dans le débat, en règle générale, à propos de la pédophilie et à propos de la loi sur le sexe et les enfants. Les enfants sont de fait interdits de sexualité, sinon au titre de jeux innocents à faire entre eux, et donc ne prenant pas acte comme étant véritablement de la sexualité. Disons en restant vierges du simple fait que 0 plus 0, c'est encore 0. Les femmes sont dans une situation totalement différente. Et ce que la loi, dans leur cas, sanctionne, ou plutôt en ne sanctionnant pas, c'est tout simplement le fait que les femmes sont, elles, obligées de sexualité. Et c'est dans le sens qu'effectivement, la loi leur demande de faire la preuve de leur innocence, c'est-à-dire la preuve qu'elles n'étaient pas consentantes. Je pense que c'est une chose qu'il faut toujours garder à l'esprit à propos du viol. Maintenant, il est certain aussi que, effectivement, la campagne contre le viol qui est menée encore aujourd'hui a des effets effectivement secondaires et que éventuellement elle pourrait amener, mais pas seulement elle, je veux dire l'ensemble de la façon dont les médias ont repris les revendications des femmes, les mouvements de femmes depuis ces dernières années, à une politique de l'assistance, c'est-à-dire à une politique qui consisterait à amener les femmes à être une catégorie demain, comme les enfants, précisément protégées du reste de l'humanité qui, elle, resterait hors cette protection, et donc de les amener à nouveau à finalement une régression au regard de la loi, qui serait tout simplement cette incapacité vis-à-vis de la loi qu'elles ont subie jusqu'à ce qu'elles soient considérées comme des êtres, comment dit-on, majeurs, je crois.
Il me semble qu'il y a une espèce de contradiction dans ce que vient de dire notre spectatrice.
Non, il n'y a aucune contradiction. Je pense que c'est effectivement... Le problème est assez simple dans la formulation de ce que nous demandons et de ce pourquoi nous luttons. De la même manière que quand les femmes ont lutté contre les lois réprimant l'avortement, elles n'ont pas dit « l'avortement est obligatoire », mais qu'une grande partie de la campagne qui a été menée contre elles a consisté à dire « ces femmes veulent rendre l'avortement obligatoire, pratiquement bon. ». De la même manière, quand on demande l'abrogation des textes qui interdisent les rapports érotiques, affectifs et sexuels entre les enfants et les adultes, ça ne veut pas dire qu'on a l'intention de les rendre d'aucune manière obligatoires, chose que, de toute façon, d'une certaine manière, la campagne de presse tend à faire dire. Parce que quand elle dit « voyez la pornographie se développer, voyez la prostitution s'enfler », ce dont nous demandons l'abrogation, en fait, c'est de la présomption de non-consentement. De la même façon que les femmes demandent, par exemple, la suppression de la présomption de consentement dans le domaine du viol. Ce dont on en a marre, en fait, c'est de la présomption d'incapacité à tout de même dire soi-même dans des formes qui ne sont précisément pas celles de la juridiction, qui ne sont pas celles du contrat, qui ne sont pas celles du langage juridique ou même sociologique, psychologique, etc., à dire entre soi les différents types de rapports qu'on essaie de tisser. Et ce qu'on essaye de défaire autant que possible, c'est ce système des présomptions et des assignations à résidence dans tel ou tel secteur pour les enfants, pour les femmes, etc.
Bien, question micro de droite.
Je voudrais savoir si, dans les cas que vous avez étudiés, vous avez des cas de rapport entre femmes et petites filles, s'il y en a, comment ont-ils été jugés? Est-ce qu'ils ont été jugés oui. avec les mêmes concepts et les mêmes rapports que ceux que vous nous avez exprimés? S'il y en a moins ou s'il n'y en a pas, comment vous l'expliquez?
Oui, alors justement, je suis tout à fait heureux qu'on me pose cette question parce que je voulais répondre sur le même problème à la personne qui vient de parler et qui disait que les femmes avaient une sexualité obligée. Je crois que c'est tout à fait vrai et qu'on en voit la preuve dans la jurisprudence du 19e et du 20e sur le problème du lesbianisme. La jurisprudence connaît très peu de cas de lesbiennes traduites devant les tribunaux pour attentat à la pudeur ou outrage public à la pudeur. Elle en connaît très peu, très peu. Et quand elle a à en connaître, elle les punit généralement d'une façon moins sévère. Et je crois, enfin je me permets d'avancer une hypothèse d'explication, mais ce n'est vraiment qu'une hypothèse. Je crois que c'est pour la raison qui a été dite tout à l'heure, c'est que les femmes ont une sexualité obligée. Et que l'homosexualité féminine, pour les juges, ça n'existe pas. Entendez par là que ça n'est pas dangereux. Et qu'après tout et surtout, dans des périodes plus reculées, surtout au début du siècle ou au 19e, on pouvait penser que on pourrait contraindre, par une forme ou par une autre, mais pas nécessairement celle de la justice, on pourrait contraindre les femmes à rentrer dans le rang sous forme de, je dirais, de viol légal, au fond.
Oui, enfin, je posais cette question parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous avez interprété ça. À mon avis, c'est pas tellement le problème que l'homosexualité féminine n'existe pas. C'est, je crois, que fonctionne tout à fait différemment le discours répressif sur l'homosexualité masculine et sur l'homosexualité féminine. En particulier, je crois que ce qu'on reproche essentiellement, entre guillemets, aux homosexuels femmes, ce n'est non pas de se désirer entre elles, mais de se refuser au désir des hommes. Alors que ce que l'on se reprochera aux homosexuels hommes, c'est de se désirer entre eux, c'est-à-dire de faire de l'homme un objet de désir. Et ça me gêne, c'est un petit peu ce qui m'a gêné dans votre interprétation de la pédophilie comme essentiellement interdiction des rapports adultes-enfants. En tout cas, ce qu'on réprime aussi, ou ce qui fait le plus peur, et curieusement, vous nous avez cité que des cas de pédophilie rapportant un adulte homme à un petit garçon. Finalement, ce que l'on voit, et qui, à mon avis, fait très peur dans la pédophilie, c'est qu'il y a le germe de ce désir entre hommes qui est ce qui va surtout mettre en danger le système sexuel où la femme doit rester objet de désir. Enfin, c'est pour ça que je posais cette question de savoir pourquoi, à votre avis, il y avait peu de cas et ils étaient moins réprimés. Voilà.
Il semble qu'il y a aussi une raison qui est que la femme a été, depuis la fin du XVIIIe siècle, obligée d'avoir à l'enfant, au corps de l'enfant, un rapport privilégié, un rapport constant, un rapport de contact, de tendresse, de soins, etc., qui fait que ce branchement corps de l'enfant, corps de la femme, non seulement n'est pas scandaleux, il est statutaire, il est obligatoire. La femme, elle est faite pour avoir contact sexuel avec l'homme et contact de tendresse avec l'enfant. Bon, et je crois que c'est un des nombreux facteurs pour lesquels le rapport femme-petite-fille, en effet, n'a presque, enfin, très rarement été sanctionné par les tribunaux.
Bien. Guggenheim, peut-être pour...
Enfin, moi, la seule chose... Non, il y a peut-être une chose que je peux dire, peut-être, sur ce problème de l'enfance. Pour rappeler ceci, simplement, c'est que, comme nous pensons tous vivre sous un régime d'évolution, et que nous pensons tous, d'une manière ou d'une autre, vivre sous un régime d'évolution progressiste, dans les pays occidentaux libérés, en tout cas, nous sommes tous convaincus... Et pourtant, les faits démontrent le contraire, comme l'a dit Jean tout à l'heure. Nous sommes tous convaincus que nous allons vers un mieux-être et une moindre codification légale des rapports sexuels ou érotiques entre les gens. Bon, nous constatons l'inverse. Nous constatons que les lois importantes ont été votées soit après reprise à la libération, donc en pleine époque de progressisme, soit en 1960, c'est-à-dire tout à fait récemment, pour la loi qui réprime l'outrage public à la pudeur entre majeurs consentants. Mais on constate aussi, et là c'est encore beaucoup plus net et c'est massif, que sur l'enfance, c'est un ensemble législatif sans cesse alimenté, sans cesse croissant et qui est en pleine inflation qui se met en place. Le système dit de protection qui en fait est le voile d'un certain nombre d'interdictions. Je cite simplement ces faits-là parce qu'ils sont intéressants. C'est d'une part la fameuse loi sur l'assistance éducative. Ce sont des lois comme celle qui a été prise récemment en 1975, j'ai vu ça, qui précise même qu'un majeur peut, s'il est considéré comme étant en danger moral ou ayant de graves difficultés d'insertion sociale, il a la faculté de demander au juge la prolongation de l'organisation de l'action de protection judiciaire, c'est-à-dire de continuer à être considéré comme mineur. Il est très frappant et aussi, par exemple, que par exemple les gens disent toujours « mais la majorité était déjà baissée à 18 ans, qu'est-ce que vous voulez ?» Mais en même temps que cette majorité a baissé à 18 ans, la protection de ces gens jusqu'à 18 ans était augmentée, et même, chose curieuse, des choses qui sont, je ne sais pas, je ne suis pas un juriste, mais qui me paraissent comme exorbitantes en matière de droit, d'une certaine façon, des gens peuvent continuer à être considérés comme mineurs au-delà de l'âge de la majorité légale, jusqu'à 21 ans, chose nouvelle, si, par exemple, ils sont en danger de drogue, c'est un des cas dans lesquels la loi d'abaissement de la majorité ne fonctionne pas, ou encore dans cet autre cas, s'ils sont en danger moral et qui demandent l'assistance judiciaire. En d'autres termes, bien loin d'aller vers une réduction de la zone de protection, on va, en fait, en principe, vers son approfondissement et même son élargissement. Et tout ça au nom du système de l'enfance. Dernière chose, c'est que l'ensemble de ce système-là correspond, en fait, à une prise en charge complète par l'État de la protection de l'enfance. C'est une chose qu'on n'a pas dit ici, mais qu'il faut dire, que ce ne sont plus les familles, en l'occurrence, qui sont tellement les gardiens de l'enfant que l'État lui-même, en tant que supervisant les familles ou en tant que prenant directement la responsabilité de l'enfance.